Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous.
On l'a tous, le bug technique du début, on l'a tous.
Hop, le petit truc, tu vois, où il faut que tu changes juste un truc pour que ça marche et qu'on s'entende pas en écho, c'est parfait. Salut Cyrus.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va très très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Ah mais écoute, ça me fait tellement plaisir de t'avoir. Bonjour les gens sur le chat, installez-vous, on va être bien. Regardez.
Faites comme chez vous.
Vous avez en direct live pour vous pendant à peu près une heure, deux magnifiques chauves à casquette. Et ça...
Voilà, la preuve.
Ah ouais, alors moi je t'avoue que, regarde, là c'est la fin du confinement. Attends.
Ah oui, t'as pas shave.
Ah non, je shave pas là, ça me saoule.
Donc, j'avoue, c'est de l'entretien.
Bah oui, écoute. Oui.
C'est de l'entretien quoi.
Une fois par semaine, moi, plus ou moins.
Ouais, pareil, ouais.
Ouais. Mais toi, tu rases à blanc. Petit point, désolé les gens, je sais que vous venez pour entendre le Cyrus parler reco-culturel, deux secondes. D'abord, on fait un petit point, comment ça se passe pour toi en termes de calvitie?
Non mais alors, en fait, j'ai un rasoir là où il y a un petit sabot de protection à la base, c'est juste de la protection. Mais en fait, je le laisse parce qu'il est vraiment infime,
okay.
Mais ça permet d'avoir... c'est quasi à blanc, tu vois, quasi. Mais j'aime bien le fait que ce soit quasi, c'est comme si c'était le lendemain de à blanc.
Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et moi, à blanc, je fais plus, c'est trop chiant, vraiment. Ceci dit, ouais. ça fait gagner 2-3 jours. Mais en revanche, moi, j'enlève le petit sabot, tu vois. Je suis.
Ouais, je comprends. Moi, ça dépend de ce qui va m'attendre dans la semaine, tu vois, genre.
Est-ce que tu t'hydrates bien le crâne? Ça, c'est
pas du tout. Non, mais
c'est
pas
vrai
du tout. Ouais, zéro.
Mais mec.
Mais je m'hydrate très peu de manière générale, même en termes de boire de l'eau. Je bois très très peu d'eau et tout, quoi.
C'est important de boire de l'eau afin de vivre.
C'est vrai.
Petit moment ASMR.
Allez.
Glou, 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 glou.
Ah, on a bien bu de l'eau.
Mais ça, tu sais, c'est important de se mettre un peu de crème sur le crâne après t'être rasé la tête, c'est toujours bien.
Alors, je mets du tonique.
C'est quoi?
Mais c'est... je t'ai eu à ton propre jeu ou
ah
pas?
Ah oui, j'avoue, j'ai pas.
Tu sais, c'est le truc que tu mets après te rincer le visage ou quoi, pour enlever tout ce qui est calcaire et tous les résidus de l'eau. C'est un peu comme, tu sais, genre, après de l'eau micellaire, tu te rinces pas. Sinon, ça perd les effets de l'eau micellaire.
Ouais.
Bah, c'est un peu pareil, le tonique. Et après, je mets de la crème hydratante. Mais je fais beaucoup plus pour le visage que le crâne. Le crâne, vraiment, peut-être quand je me rase, juste après m'être rasé.
Ok.
Voilà.
Tu sais que j'ai reçu, non, j'en reparlerai une prochaine fois, mais j'ai reçu un mail d'un gars qui était un peu déçu de ma vidéo et du fait que j'ai mis un toupet, n'est-ce pas?
Ouais.
Et qui me disait qu'il était saoulé parce qu'il n'y avait pas du tout, d'ustensile fait pour le rasage de crâne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque de rasoir qui ont inventé un rasoir rond. Tu vois, ou incurvé, afin de pouvoir te raser le crâne sans te couper, quoi, tu vois. Ça te parle pas?
Il y a les trucs, là, les trucs que tu mets entre les doigts et qui...
Ah, je sais pas. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Mais ça marche, ça marche pas. Hein.
Ah bon, moi j'ai un pote qui a ça, il est très content et tout.
Ah, ok. Hein. Bon, écoutez, c'était les 3 minutes rasage de crâne. Cyrus, pour les gens qui ne te connaissent pas, mais comment c'est possible que vous ne connaissiez pas Cyrus, n'importe quoi?
Arrête.
Déjà, je me permets de te remercier en direct pour ta participation dans le reboot de mon podcast Histoire de Mec. J'ai reçu tellement de messages.
C'est vrai?
De gens qui m'ont dit waouh, trop trop bien, et il a trop joué le jeu et
trop bien.
Et classe quoi, tu vois. Je sais pas si toi, de ton côté, t'as eu des retours de la part de ta commune.
J'en ai eu quelques-uns, mais forcément, ils me connaissent plus.
Ah oui.
Parce que c'est ma commune, donc ils sont moins... Tu vois, ils étaient là en mode, ouais, toujours cool d'entendre, tu vois.
Mais c'est la base, quoi, tu vois. Le mec, il est
très gentil.
Au top du game, et pour eux, c'est juste la base. C'est comme les enfants pour y gâter, quoi, tu vois, ils se rendent pas compte.
Mais du coup, j'étais curieux de savoir, tu vois, genre, pour des gens qui connaissent le podcast et qui me connaissent pas, genre, ce qu'ils en ont pensé. Donc, je suis content de voir que les retours étaient positifs.
Ah ouais, très positif. Donc, et surtout, je pense que t'as dit des trucs dans le podcast que j'avais pas encore entendu. En 50 épisodes. Notamment, tu sais, toute cette peur de, d'ouvrir la boîte. Ouais. De Pandore, ouais. De la masculinité, etc., etc. C'est, j'avais pas entendu de gars dire le dire aussi ouvertement, quoi.
Ok. Donc, c'est chaud. J'arrive pas à savoir si du coup c'est parce que je suis bizarre ou je suis sincère. Je sais pas.
Je pense que c'est parce que t'es sincère.
J'espère.
Mais après, peut-être aussi que t'as ce recul là sur toi, quoi. Tu vois, de.
Ouais, peut-être.
Peut-être à cause ou grâce au stoïcisme, on sait pas. Que t'as tendance à t'introspecter.
Peut-être. Grâce, j'aurais dit.
Bien sûr, grâce. Donc oui, Cyrus, tu es. Est-ce que tu te désignes comme YouTuber ?
Ouais, franchement, ouais. Ouais, je suis YouTuber, tu vois. Genre, le gros de mon taf, c'est sur ma chaîne YouTube. Mais au quotidien, je pense à ma chaîne YouTube souvent. Le cœur de ma communauté, c'est sur YouTube. Donc oui, je suis YouTuber, tu vois. On va pas se. Mais je suis YouTuber avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire que ça déborde de YouTube et que YouTube devient un médium,
ouais,
pour faire des choses, comme quasiment tous les YouTubeurs, tu vois.
Par exemple, un truc qui a débordé de YouTube, c'est que j'ai suivi avec tellement d'attention et de, comment dire, et de régularité tes stories d'emménagement. J'étais au taquet.
Ouais, je sais, tu m'envoies pas de messages et tout. Ça,
j'ai tout suivi. Mais j'avais envie de suivre la suite, tu vois.
Ouais, mais j'ai un petit pincement parce que. Parce que t'es pas le seul, déjà, qui m'envoyait des messages sur l'emménagement et tout, genre en mode, etc. Et genre, c'est un peu fini, quoi, tu vois. Genre, je peux pas éternellement faire des stories sur quel truc. Et en même temps, je pourrais, gros. Je pourrais. Attends, je viens d'acheter un truc pour de la déco. Attends, je te l'amène. Non, mais tu vas halluciner. Alors, gros, si, tu vas halluciner.
Si vous avez pas suivi, alors je vous invite.
Mais attention.
J'invite les gens qui sont là à te suivre sur Insta parce que c'est vraiment cool ce que tu fais. Je trouve que tu donnes.
Mais ça va pas plaire à tout le monde, hein.
Ah, ok.
Je préviens. C'est voilà,
let's go.
Ça va pas plaire à tout le monde.
On va faire la provoque. Bonjour les gens qui arrivent, salut à vous tous, salut Michel Jordan, salut Biblioterie. Effectivement, les stories déménagement, c'était trop cool. J'ai tellement kiffé.
C'est stylé.
Mais pourquoi? Alors pour l'audio guide, si vous écoutez un podcast en replay, sachez que vous pouvez écouter tous mes lives en replay dans un podcast qui s'appelle La Reco de Fab Flow. Vous cherchez dans votre appli de podcast préféré. Et donc pour l'audio guide, vous m'avez entendu rire parce que Cyrus a ramené un immense corbeau, une corneille,
effectivement. Parce qu'on vient de loin. Allez.
J'ai envie de couper ce live. Allez, on arrête là-dessus, ça va. Ça suffit, putain. Oui, c'est une corneille, c'est pas un corbeau, les gens dans le chat, désolé. Mais donc, pourquoi une corneille, mon bon Cyrus ?
Je sais pas, je l'ai trouvé trop stylé. En fait, à la base, je voulais la mettre dans la bibliothèque. Mais donc, au niveau des dimensions, ça devait être bon. Mais en fait, ils ont mis la dimension de la longueur de la corneille, pas de la hauteur.
Ah.
Et donc, ça rentre pas dans la bibliothèque. Donc, bon, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave, c'est une belle corneille quand même.
Il y a Chris Paul qui dit une corneille comme l'auteur. Non, mais comme le chanteur surtout. Enfin...
Bien sûr. Chris Paul qui est modo sur ma chaîne Twitch que je salue.
Salut Chris Paul. Bienvenue chez moi.
Mais non, ouais. Voilà. Donc oui, je pourrais continuer effectivement mes stories. Mais tu vois, genre effectivement, la corneille, je ne sais pas si je la mets en story, tu vois.
Ah, moi, je la mettrai parce qu'en fait, déjà, ça fait sondage. Pour contre, la corneille. Ah, déjà, tu démarres, tu fais une première story. Est-ce que, selon vous, c'est un corbeau, une corneille ou une mouette? Tu vois, tu fais un quiz. Comme
non, mais sinon, je peux faire croire qu'elle est vivante, en vrai. En vrai? Gros, je te jure. Attends.
Ah, tu veux dire que tu la prends en photo? Oh,
tu la vois là? Mec, t'as des doutes. Moi, à chaque fois que je passe à côté d'elle, Je suis attentif.
Oh, putain. Ok, mais j'avoue, en fait, ça crée du débat. Déjà dans le chat, tu vois, les gens qui disent c'est flippant. moi, je trouve que c'est stylé, mais ça fait un peu Game of Thrones, quoi.
Ouais, non mais j'avoue, j'aime bien ce côté un peu. Alors c'est une partie de moi que je montre pas trop sur les réseaux, c'est pour ça que je le mets pas sur Instagram. Mais en vrai, j'aime bien parfois un petit côté macabre, un peu.
Oh, ok.
Tu vois, genre ça peut me faire délirer les crânes et tout, ça peut me faire délirer quoi.
Est-ce que c'est parce que t'étais goth au lycée ou comment ça se passe?
Pas du tout, mec. Non, j'ai toujours été comme ça, toujours dans la team, pas trop de style. Pas d'équipe en tout cas. Pas de style, mais pas d'équipe, tu vois. Team indépendante, quoi. Donc non, je mais j'avoue, ouais, j'aime bien les petites babioles, les petits trucs. Et tu vois, depuis tout petit, j'ai toujours kiffé, j'aurais kiffé avoir des collections de des trucs de taxidermie et tout. Je trouve ça trop stylé. Mais quand tu vis avec quelqu'un qui sait pas trop son délire, bon bah tu le fais pas. Et quand t'es plus jeune, t'as pas les thunes à dépenser là-dedans, quoi, tu vois, genre. Et donc, maintenant je suis seul et que j'ai 30 ans, donc tu vois, j'ai un peu plus
Argent.
de pouvoir d'achat, et ben je peux me faire plaisir en achetant des trucs de déco qui me plaisent. Voilà.
Il y a Meurdenaute qui dit vive dans Paris, rend fou. C'est pas faux, c'est
pas
peut-être ça.
faux, c'est pas faux, c'est pas faux.
Ceci dit, moi, les corneilles, quand tu me montres une corneille, ça me fait penser, ça fait vraiment mec qui raconte ces trucs, tu vois, mais ça me fait penser à l'Inde où je sais pas, t'es allé, non, t'es pas allé en Inde, toi, t'es allé au
Non,
Népal.
ouais.
Et en fait, là où j'étais en Inde, il y avait des corneilles partout et qui passaient leur temps à pousser des cris de corneille.
Des
Vraiment,
croassements.
ça fait un bruit, on se croirait dans le Game
Ouais.
of Thrones de ouf, quoi.
Ouais.
Et y en avait vraiment partout. Donc moi, quand tu montres une corneille, j'ai plutôt tendance à me dire, ok, en fait,
Ouais, ça te rappelle ça.
on est en Inde et je médite et je fais du yoga pendant des heures.
Ah, stylé, putain, c'est marrant, ça a pas du tout cet imaginaire chez moi.
Bah oui, moi non plus.
Ouais.
Et ça m'a vraiment un peu choqué. Il y avait à la fois genre des rapaces, des petits faucons, des trucs comme ça, et des corneilles aussi, énormément. Assez étonnant, tu vois. Donc voilà. Alors attends, que dit Aurégège? J'avais un peu peur de la réaction des gens qui arrivaient chez moi avec les trucs empaillés, séchés sous résine, mais c'est fascinant. Ok.
Je suis d'accord. Moi, j'avoue, ça me fascine.
Et il y a Chris Prost qui te balance et qui dit, vous savez pas, mais Cyrus tient des cadavres dans sa cave. Info vérifiée. Putain, sympa tes modos. Avec des amis comme ça.
Faut pas le dire. Putain, t'imagines si un jour il se passe un truc, etc., et que les gens ressortiront ce passage du live
Bah oui.
Twitch. Il l'avait dit sur Twitch en 2020. Tu vois, tout le monde pensait que c'était une vanne.
Si tu nous fais une Dupont de Ligonnès, quoi.
Mec, tu seras interviewé. Mais je pensais que pour moi, il faisait ce genre de vanne tout le temps. Je pouvais pas me douter un seul instant que c'était vrai. Fabrice Florent est-il complice?
Bah oui,
C'est la
bien
question que nous
sûr.
allons nous poser ce soir.
Ah bah ça, c'est la confrérie des chauves, hein. Entre chauves, on se
Bien
balance
sûr.
pas.
Bien sûr.
Là, j'en rajoute encore sur moi. C'est vraiment. Je serais obligé de me barrer avec toi. Bonsoir les gens qui arrivent sur le chat, salut à vous. On est avec Cyrus North donc pour discuter d'une de ces recos en dehors
Ouais.
de ces conseils déco. Et de quoi, Cyrus, tu as envie de nous parler ce soir?
Allez, ce soir, on va parler d'un livre qui s'appelle La fin de l'amour de Eva Illouz. OK? C'est pas du tout lié à ma situation personnelle. Je préfère le préciser.
Oui, parce que pour les gens qui savent pas, tu as rompu il y a quelques mois. Tu as
Enfin,
fait.
on a rompu,
Oui.
c'est pas moi qui
Oui. Et vous.
voilà.
Et tu as notamment fait une vidéo. Je mettrai le lien dans les notes. Dans les notes de. Si vous voulez le mettre dans les notes dans le chat. Si, je vais la
J'ai des
mettre.
frissons parfois.
Je vais la mettre. Je vais la
Des
mettre.
fois, ça m'arrive, j'ai un frisson, je fais des trucs comme ça, voilà.
Pourquoi?
Je sais pas, et c'est bizarre d'ailleurs, parce que quand c'est moi qui fais le live, ça m'arrive pas. Je peux
Ouais.
tenir 2 heures sans, mais de temps en temps, tu vois, dans ma vie, tu sais, j'ai des petits frissons comme ça.
Ok.
Ça vous arrive, vous, les gens aussi, ou pas? Ou y a que moi qui a ça?
Il s'est fait quitter, quoi. Bon, ok, cool.
C'est compliqué de dire, non, je pense pas, on
Ça
pourrait
va
pas dire
jamais dans
ça,
un
je pense.
sens, hein, je pense, de toute façon.
Ouais.
On est d'accord avec ça ou pas?
Bah, parfois, ça va dans un sens, quand même.
Ouais.
T'es dans des relations toxiques et tout. Tu vois,
Oui.
pervers narcissique, ce genre de truc, ça va dans un sens quand même. Mais en temps normal, oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas que parce qu'il y a l'autre qui fait un truc, mais il y a aussi comment tu perçois ce truc-là, tu vois.
Ouais, je suis
Tu
d'accord.
pourrais être totalement OK avec ce qu'il fait, tu vois, ou ce qu'elle fait.
Tout à fait. I agree. Je vais le noter comme ça, je mettrai les. pour les gens qui ne sont pas qui ne sont pas dans le live, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode en replay. Vous pourrez aller voir cette vidéo que j'ai vraiment trouvé. Enfin, pour moi, c'est l'une de tes meilleures vidéos que tu aies jamais faites.
Ah ouais?
Ouais, vraiment. Et c'est triste.
Il faut que je me fasse. C'est faut qu'on se sépare plus souvent, quoi.
Non, mais c'est triste à dire parce que en fait, t'as vraiment écrit et réalisé plein de trucs vraiment très profonds, en fait. Mais c'est marrant. Je trouve que c'est cool. Après, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? 4-5 ans, c'est ça? Sur YouTube?
Des vidéos sur YouTube? Ouais. De manière générale?
Ouais.
7 ans et demi, mon pote.
Ah ouais, putain. Donc, mais tu vois, après 7 ans et demi, que t'es encore capable de sortir une vidéo qui s'appelle Oui, ça aussi, c'est moi. Où tu parles de ta rupture et tu racontes à quel point t'es en train d'en chier, en fait. Je trouve que c'est à la fois courageux et cool de ta part, et parce que quoi qu'il arrive, c'est la vraie vie, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est pas parce que t'es youtubeur et que tu vis dans le strass et les paillettes et les corneilles que forcément ça claque, quoi.
Ouais, mais c'est marrant, je me voyais pas ne pas en parler. La question, c'était comment j'allais en parler. Mais je me voyais pas faire OK, donc cette fois-ci on va parler du smartphone et de l'addiction au téléphone partie 2, tu vois, genre c'était avec tout ce que je venais de vivre et tout, c'était pas possible, quoi, tu vois. J'ai changé un peu mon décor, voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors non, tu vois.
Oui, ça aurait été chelou.
Tu vois, c'était chelou, ouais. Mais
pour revenir à ce livre, alors.
Du coup, de quoi ça parle? En gros, c'est un livre qui, donc, Eva Illouz, c'est une sociologue israélienne haut level, vraiment, elle est trop forte. Elle a écrit, notamment, elle a coécrit Apicratie. Peut-être que ça vous parle.
Qui est sorti tout récemment, là, c'est ça? Enfin,
qui est sorti il y a un ou deux ans, je crois. Enfin,
Apicratie, voilà. Qui est, en gros, si je ne me trompe pas, le pitch, c'est la dictature du bonheur, la dictature de
exactement.
Il faut être toujours heureux, sinon, c'est pas bien.
Exactement, okay. Voilà. Et là, elle a écrit un truc donc sur donc la fin de l'amour, et en fait, ce dont elle parle, c'est comment la société capitaliste, en fait, et le libéralisme, etc., qui prône une forme d'individualisme, tu vois, ou en tout cas s'écouter ses émotions, respecter ses choix, juste le choix, déjà l'idée de choix, tu vois, le fait de tout est possible, suivre ses rêves, etc. Ok. Et ben tout ça fait que ça tue le couple et l'amour.
En fait. Okay.
Parce que globalement, en gros, au moindre petit truc qui va pas, bah tu vas pas faire forcément des concessions, etc. Et tu vas pas prendre sur ta liberté et tes envies pour faire marcher le couple. Tu vas toujours passer avant, en fait. Et donc bah le couple n'est plus possible. Tu vois. En tout cas, beaucoup de couples ne sont plus possibles. Et donc elle parle de ça là-dedans, hein, enquête sur un désarroi contemporain. J'en suis à la page 50 sur 300. Je l'ai écouté dans des podcasts, etc. Elle me fait vraiment brillante, tu vois. Et tu vois, genre là, j'en étais sur, par exemple, le désir de l'homme célibataire, tu vois, qu'elle qualifie via Durkheim de anomique.
Anomique.
Voilà, en fait, elle précise.
Okay.
Elle dit, c'est un désir qui manque d'objets définis et qui, de ce fait, est insatiable. C'est-à-dire que vu qu'effectivement, le mec célibataire, tu vois, qui a envie d'expérience et qui veut, c'est vulgairement, coucher à droite, à gauche, enfin, ce que tu veux, etc., tu vois, que c'est pas forcément un mec, hein, c'est un désir que des meufs peuvent avoir, mais là, elle fait une analyse sociologique et effectivement, tu vois, genre, ça, c'est plus le stéréotype du gars, tu vois. Et elle dit, vu que c'est pas tourné vers quelqu'un en particulier ou vers une expérience en particulier, c'est insatiable. Et donc, c'est un désir qui n'a pas de fin. Tu vois, c'est ça, c'est dans ce sens-là anomique, tu vois. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, elle balance des petites choses, moi qui me... Le respect des promesses, je lis des phrases que j'ai surlignées, je sais pas ce qu'elles valent. Le respect des promesses et l'institution du mariage sont des ordres normatifs qui imprègnent le désir et l'amour et les structures de l'intérieur.
Okay, ouais,
on réfléchira à ça une autre fois.
Non mais vas-y, viens, on réfléchit dessus si tu veux. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors juste attends, avant de revenir sur cette phrase, moi ça me parle pas mal parce que j'ai eu pas mal de darons dans mon podcast Histoire de Daron qui ont été suffisamment honnêtes pour dire que ils avaient eu eux-mêmes un vrai problème à passer à la phase « je vais devenir papa », parce que justement, ils voulaient continuer à prolonger le plus longtemps leur vie de d'hommes célibataires, si tu veux, même s'ils étaient en couple avec la future maman, tu vois. Je pense qu'il y avait un vrai truc de passage qui leur faisait vraiment peur, en fait, tu vois. Donc,
je comprends. Hein.
Donc, c'est hyper intéressant, cette vision des choses. Et même quand t'as ce projet qui est comme un projet fou, qui est « vas-y, viens, on fait un enfant, l'enfant, il est en route et tout », tu vois. Il y a pas mal de mecs qui ont tendance à perdre un peu les pédales et à se dire « oh putain, ça arrive, donc maintenant, c'est le moment ou jamais d'en profiter, de tout donner, quoi. »
Ouais, bah, j'imagine. Bah, ça fait trop flipper, mec. Moi, je comprends. En vrai, je comprends de ouf. Et la phrase « le respect des promesses de l'institution de mariage, c'est des ordres normatifs qui imprègnent le désir et l'amour et les structures de l'intérieur », ce qu'elle veut dire, c'est que le fait que, tu vois, donc là, elle parlait dans c'est une phrase qui conclut tout un truc où elle parle d'un truc qui se passe au 19e, tu vois. Et où, tu vois, le mariage est beaucoup plus institutionnalisé, genre t'as un vrai cadre, etc. En gros, ce qu'elle explique, c'est que ces cadres, c'est pas juste de la forme, c'est que ces cadres, ils imprègnent, donc ce qu'a dit le désir et l'amour, dans le sens où ils ont des vraies conséquences sur aussi ta manière de désirer, ta manière d'aimer, et que c'est pas juste, tu vois, en enlevant le mariage, par exemple, on fait pas juste enlever une manière de se présenter aux autres. C'est pas juste ça, tu vois. On enlève aussi une certaine manière de s'aimer, une certaine manière de désirer, etc., tu vois.
Au-delà de l'institution.
Voilà, exactement.
Ah, c'est intéressant parce que effectivement, ça donne un cadre. T'as pas vraiment d'autre choix que de passer par cette case-là, quoi.
Ouais. Ouais, exactement.
Puis il y a un truc aussi, je pense, derrière le mariage, t'invites plein de monde.
c'est de la balle.
Mais c'est dramatique, mais c'est un peu ça, tu vois. T'invites plein de monde, alors même si t'invites pas grand monde, en fait, au pire, au mieux, t'invites ta famille, quoi, tu vois. Et tu fais une promesse devant tous ces gens-là, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça aussi, sans doute, il y a un truc derrière ça, quoi. Enfin, en tant que ex-gars marié, quoi, tu vois. Je vois à peu près ce que ça raconte.
Non, j'imagine. Et puis pour aller plus loin dans le mariage aussi et dans ce qu'il représente aujourd'hui, tu vois, genre, je pense que par rapport au 19e où il y avait beaucoup moins de divorces, aujourd'hui, le mariage, il a perdu un peu de puissance, quoi, quelque part, tu vois. Il a beaucoup moins ce côté définitif, je trouve, tu vois.
Et tu crois pas qu'il y a moins de divorces parce qu'il y a potentiellement plus de femmes et d'hommes, tu vois, qui sont indépendants financièrement et que t'es pas forcément obligé de vivre en couple pour réussir à subvenir à tes besoins, quoi.
Bah, ça rejoint un peu cette idée-là aussi, c'est que il y a aussi plus de divorces parce que. Donc, ce que tu dis là, et on va même aller plus loin, parce que tu choisis l'autre par amour, en fait. Alors qu'avant, tu choisissais pas forcément par amour. Donc, quand tu choisis pas par amour, et que tu crées le couple quand même, bah, quand l'amour n'est plus là, bah, c'est pas grave, puisque t'as pas choisi par amour, de toute façon. T'es à choisir pour plein d'autres raisons, économiques ou sociologiques ou ce que tu veux, tu vois. Vu qu'aujourd'hui, les mariages sont des mariages d'amour, et ben, forcément, ils sont beaucoup plus fragiles, tu vois.
Et donc, c'est la fin de l'amour.
C'est pas que pour ça, mais ouais, c'est la fin de l'amour. Ouais. Et donc, ouais, je trouve ça hyper, hyper intéressant de voir comme toute cette sphère de cette mise en avant de soi, suivre sa vocation, s'émanciper, se comprendre, se connaître, s'écouter, etc. Je trouve ça intéressant qu'en fait, tout ça mène à un couple différent ou voire pas de couple, en fait, tu vois, une impossibilité du couple.
Ah, c'est intéressant. Il y a Drama Diffusion qui dit: quand vous parlez de divorce, vous parlez d'annulation de mariage ou vous parlez aussi de la rupture sentimentale?
Moi, j'avoue, je parlais des deux.
Bah, moi aussi, parce qu'en fait, tu peux très bien ne plus avoir de sentiments pour l'autre et rester dans... Ouais. Rester en mariage avec et rester en couple avec.
L'inverse, c'est très rare quand même. C'est très rare de se dire on s'aime, mais viens, on divorce. Viens, juste flemme là, la bague, chiant. J'aimerais bien, voilà, juste on divorce, mais on se reste ensemble. Non, c'est très rare.
Et pourquoi ça te parle?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ça me parle parce que...
Pourquoi t'as eu envie d'acheter ce bouquin?
Parce que je me suis dit que c'était un moment de ma vie tu vois, genre qui résonnait pas mal, etc. Parce qu'effectivement, tu te poses cette question aussi de... Je vais pas rentrer à fond dans le détail de pourquoi on s'est séparé oui. dans ma précédente relation, mais il y a des fois où tu te poses la question de... à quel point les choses auraient pu aller, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je change ou que la personne change pour que ça aille. Et donc, l'arbitrage entre le couple et moi, tu vois. Donc, c'est des questions que je me posais déjà, tu vois. J'ai mis du temps à capter cette notion de compromis, tu vois, et de...
Ah, ok.
Et de... tu vois, genre, bah, un couple, ça implique ça, et que, tu vois, genre, et même au-delà de compromis, genre, de se battre pour le couple, etc., essayer de mettre toutes les chances de son côté, et genre, il y a un moment, tu te bats plus pour toi, tu te bats pour le couple, tu vois. Et donc, parce que c'était une de mes premières, voire ma première relation où vraiment j'avais envie de, quand il y avait des difficultés, je voulais me battre plutôt que partir, tu vois. Parce que quand t'es plus jeune, en tout cas moi, quand j'avais des difficultés, j'étais plus en mode « Bon, ok, ça devient trop compliqué. Allez, on se casse !» Donc là, tu vois, genre, oui. quand t'as 26 ans passés, etc., en tout cas, moi, c'était vraiment plus « Ok, bah il y a des difficultés, bah vas-y, on va les affronter, machin, on va faire ça, etc. Et » et donc, du coup, ça m'a parlé, ce truc, de ces difficultés-là, bah c'est de... Voilà, il y a le climat économique et social fait que et sociétal fait que bah, on n'a pas toujours envie de les affronter ces difficultés et que en fait parfois on préfère être seul, tu vois. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que c'est ça ce qu'on veut pour notre société, tu vois, genre tout ça quoi. Donc
mais tu crois pas qu'il vaut mieux être seul plutôt que enfin, on dit toujours mal accompagné, mais c'est même ouais. pas ça en fait. C'est juste seul qu'avec quelqu'un avec qui t'as des sentiments un peu mièvres, quoi, tu vois, ou un peu bof.
Bah, je sais pas, tu vois.
Ouais.
Genre, je pense que là maintenant, tu vois, genre, tu me poses la question maintenant, je te dirais oui, mais tu vois, genre, quand t'as, je sais pas, je me dis, t'as 60 ans, t'es avec quelqu'un depuis, je sais pas, 15 ans, t'as des sentiments un peu mièvres, mais genre, t'es bien, tu vois. Et qu'en fait t'as une affection pour la personne qui dépasse l'amour entre guillemets, tu vois, c'est plus de du love passionné, mais c'est d'autres choses, tu vois.
Quoi qu'il arrive, c'est obligé.
Voilà. Non mais
tu même vois, avant 60 ans, si je puis me permettre.
Oui oui oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que l'amour se transforme, tu vois.
Oui.
Et je trouve ça un peu illusoire de vouloir chercher à tout prix ce truc de love et d'amour comme ça pourrait être au début, tu vois. Donc, et c'est peut-être ça que tu vois, que on pourrait qualifier de mièvre à un moment. Après, il y a différents types de mièvre, j'imagine. Ouais, ouais. Mais pour moi, la question se pose, tu vois. Et en vrai, ça m'a marqué mes questionnements sur le couple et la famille et tout. Ont été vachement influencés quand je suis allé au Liban. Tu sais, on a visité un centre de réfugiés syriens. Et tu vois, ils étaient tous en famille, tu vois, et genre des familles pas forcément hyper nombreuses, tu vois, mais des familles où genre toutes les générations elles vivaient au même endroit et des liens hyper forts, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais nous, nos vieux, on les met dans des maisons de retraite, quoi. Tu vois, on les met loin, on leur file des thunes. Et voilà, laisse-moi tranquille, tu vois. Et ça m'a fait... et tu vois, je me suis dit, putain, c'est fou, notre culture. Tu vois, par rapport à... Tu sais, on est une exception, en vrai. Tu vois, genre, tu regardes le monde au global, tu regardes l'Asie, tu regardes l'Afrique, tu regardes donc là où il y a des grosses populations et tout. Ben en vrai, il y a peu de gens qui font comme les Européens, tu vois, et notamment comme les Français, tu vois. Donc tout ça, ça m'a posé la question de l'importance que j'accordais à la famille et donc au couple et à.
C'est pas pareil la famille et le couple, hein.
Non, c'est pas pareil, mais et en même temps.
Moi, j'avais un attachement à mon couple, tu vois, qui était beaucoup plus fort que mon attachement à ma famille, par exemple, et à ma famille proche. Ça veut pas dire que je les aime pas, c'est juste. Et je pense en fait qu'il y a un truc très important aussi. Je sais pas si tu connais le travail d'Emmanuel Todd sur les systèmes familiaux.
C'est très mal.
C'est un historien, Emmanuel Todd, qui a travaillé sur les systèmes familiaux et qui explique. Alors après, je ne suis pas historien, désolé si je déforme les propos, mais en gros, qui expliquait qu'il y avait différents types de familles et qu'il y avait la famille nucléaire et la famille communautaire. La famille communautaire qui a tendance à vivre ensemble et la famille nucléaire qui a tendance à pondre, entre guillemets, à créer des individus plutôt séparés, quoi, tu vois. Alors après, il y a différentes strates à l'intérieur des familles nucléaires, etc. Mais bref. Et en fait, j'ai un peu la sensation que c'est un truc que j'avais moi, qui était en France, par exemple, il y a encore 50 ans. Parce que, par exemple, mes parents ont reçu pendant, je sais pas, plusieurs mois, ma grand-mère qui était malade à la maison, si tu veux. Et moi, je pense que c'est un truc, et je te dis ça aujourd'hui, je pense que c'est un truc que je ferais pas naturellement pour mon père ou pour ma mère, parce que en fait c'était tellement compliqué à gérer au sein de la famille, mais pour mon père ou ma mère ça n'a pas été une question, quoi, tu vois. Elle est venue direct, tu vois, et il s'est distendu un lien en fait entre sur une génération d'écart qui pose pas mal de questions, si tu veux, je pense. Mais au-delà de ça, pour moi le couple c'est encore autre chose, quoi. C'est pour ça que je me permettais de t'en parler.
Bah, pour moi, c'est des symptômes différents du même truc. Mm-hmm. Tu vois, c'est toujours ce truc de j'ai pas d'obligation. Tu vois, et donc j'ai pas d'obligation envers la famille, mais j'ai pas d'obligation envers le couple non plus. Tu vois, à part des trucs fondamentaux, genre je sais pas, peut-être ne pas tromper parce qu'on se l'est dit, tu vois, j'en sais rien, mais je veux dire. J'ai pas, tu vois, de manière générale, je suis libre et responsable et je fais mes choix et qu'on me laisse tranquille, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi il y avait il y a un rapprochement entre les deux. Et ouais, c'est ce que tu dis sur ce lien qui s'est rompu en une génération, tu vois, genre effectivement quand je suis allé là-bas et que j'ai vu ça, genre ça m'a frappé, tu vois, je me suis dit mais est-ce que je kiffe qu'on est, ce qu'on est en train de devenir, et est-ce que j'ai envie de faire partie de ça et j'ai envie de véhiculer ça, tu vois. Est-ce que j'ai envie de faire ça avec mes parents, mes enfants, etc. Et en fait, c'est hyper dur, peu importe tes convictions, c'est hyper dur de se battre contre un truc qui est si profondément ancré qu'un modèle sociétal, quoi, tu vois.
Et t'en arrives à quelle conclusion, là, actuellement ? Si demain tes parents tombent malades et qu'ils ont besoin de toi, tu fais quoi ? Tu plaques tout et tu vas les aider ?
Ouais, malade et tout, ouais. Ouais, ouais. C'est... Enfin, ça dépend de ce que t'appelles tout plaquer, tu vois. Mais non.
Par exemple, t'es obligé de déménager et d'aller vivre chez eux, quoi, tu vois.
Ouais. Bah, j'espère qu'ils regardent pas ce live. Hein. Maman, c'est pas vrai, si tu regardes ce live... Je serai là pour toi, t'inquiète.
Non, mais c'est des vraies questions. Et moi, je pense même en tant que parent, parce qu'aujourd'hui, je suis des deux côtés maintenant.
Oui, t'as pas envie que tes enfants viennent
je
non plus.
Je détesterais ça en fait. Tu vois, je détesterais non pas, mais juste de leur peser sur la horte comme ça, quoi. Tu vois, ça.
Ouais.
Je me dis juste, mais en fait, vous inquiétez pas pour moi, ça va aller, quoi.
Ouais, c'est des questions difficiles. Mais tu me demandes là maintenant comment je me positionne, etc. En fait, pour moi, c'est des questionnements qui n'ont entre guillemets pas de sens. Enfin, ça sert à rien de les avoir vu ma situation. Tu vois, je suis célibataire, donc en fait, peu importe ce que je pense, c'est des raisonnements que tu construis en étant confronté à la situation et que tu tisses dans la relation. Tu vois. Donc là, au final, c'est plus du pur divertissement intellectuel entre guillemets. Tu vois, genre.
Non, parce que je pense que tu t'es pas en train de. T'es en train de te construire aussi une forme de vision du monde, non, tu crois pas?
Ouais, mais franchement, en tout cas, moi, d'expérience, c'est peut-être que moi, hein, mais les visions du monde que je me construis, elles peuvent être balayées en 2 secondes par quelqu'un, tu vois. Tu vois, tu peux te dire, non, moi, je veux ça, je veux une relation comme ça, machin et tout. Waouh, toi, t'es trop stylé, je m'en bats les couilles de mes principes, je te suis. Tu vois. Ah, tu veux pas un couple comme ça? Pas de problème, je te kiffe, donc... tu vois,
je vois tellement.
Donc il y a un moment où il faut être aussi lucide. Voilà, il y a ce que, en fait, je pense qu'il y a ce que t'aimerais dans un monde idéal. Il y a si on te donne ça, est-ce que en fait tu le veux vraiment? Et ensuite il y a ce que l'autre veut, tu vois, genre, c'est-à-dire que même si t'étais seul, c'est pas sûr que t'aimerais ce que tu prêches. Tu vois, donc non, je trouvais que c'était un livre très intéressant à vous conseiller, les amis.
Il y a Léa sur le chat qui dit « Dure les questions ici ». Bonjour, bienvenue.
J'avoue.
Est-ce qu'il vaut mieux pas aller voir une bonne partie de Among Us, hein? Je vous pose la question. Non, restez avec nous.
J'ai jamais joué.
Comment ça, Cyrus?
Ah, j'ai jamais joué, mec.
Il faut qu'on fasse une petite partie, là.
Ah, je suis trop chaud.
Ah, c'est vrai? Tu vois ce que c'est ou pas?
Ouais, là tout de suite je peux pas.
Non, parce pas que là tout de suite.
J'ai pas, mais non, ouais. Je suis trop chaud pour une partie. Ouais.
Ok. Maintenant que t'es sur mon Discord, là, on va s'organiser ça, tu vas voir.
Ça marche, avec plaisir.
Il y a Ibou Dilettante qui disait: j'ai eu 3 couples dans ma vie qui ont duré plus de, alors je sais pas combien de temps, mais je crois que je suis en train de retomber amoureux. C'est la première fois que ça me fait si peur. Peut-être que c'est la trentaine ou ma blessure du rejet, mais j'ai peur d'être triste. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Je dois vivre mes sentiments. Merci les gars, vous êtes au top. Et
exactement, t'as pas le choix. Il y a ça, hein. Il y a vraiment ce truc de. Mais la ceinture, c'est parti, mon pote. Vraiment. Tu sais, c'est vraiment les montagnes. Il y a un moment, ça monte. Et t'es là, genre, allez, vas-y, go. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas.
Ouais, je comprends.
J'arrive pas à réfréner le truc, tu vois.
T'es amoureux de l'amour, quelque part.
Ouais. Et puis, c'est hyper agréable, je trouve. T'es le boum-boum dans le cœur et tout. C'est des trucs qui sont... qui font flipper. Tu sais, genre, ça te met dans des états que... Est-ce que l'amour qui te met dans les états comme ça, quoi? T'es en stress, machin et tout, putain. T'es surtout le. Moi, après, j'avoue, moi, ce que j'aime pas, c'est le début. Le début de la relation. Tout ce qui est début de relation, je déteste, gros.
Pourquoi?
Moi, je suis en insécurité tout le temps. je suis en insécurité, j'aime pas du tout. T'es, je suis là, genre. Est-ce que je dois lui dire ce que je pense ou pas? Non, parce que si je lui dis, je vais la saouler, je vais être relou. En même temps, j'ai pas envie d'être relou, mais en même temps, je peux pas ne pas lui dire parce que je le pense. Donc voilà. Et puis.
Oui, parce que sinon, tu fais un peu prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que t'as peur de te faire quitter et au final, tu finis par te faire quitter ou tu finis par flinguer le couple.
C'est
juste parce que t'avais peur de le faire, quoi.
Ouais, et puis je fais partie de ces gens qui surintellectualisent le truc, tu vois.
Ça parle tellement.
Tu parles à la personne et la personne, elle te dit non, mais. Je pense que faut se détendre, on n'est pas obligé de se prendre la tête comme ça, on peut juste vivre le truc. Vivre le truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas de quoi tu me parles. Mais tout ce que je viens de te dire, ça fait sens ou pas? Non? Oui? Non? Ok, alors pourquoi tu me parles de vivre le truc?
Ma psy te dirait, tu es beaucoup dans la tête et beaucoup moins dans le ventre.
Ah bah... Non, mais le pire, c'est que ce qui est dans la tête se retrouve dans le ventre après, tu vois.
Ouais.
Ça crée des. Les nœuds dans la tête se retrouvent en nœuds d'estomac. Mais.
Il y a Papaya qui dit le début, c'est le meilleur, c'est le moment. C'est à ce moment-là qu'on est le plus amoureux. Mais je suis pas si sûr, en fait. C'est pas pareil, en fait. C'est juste pas le plus. C'est juste différent.
Le meilleur pour moi, c'est un an. C'est, tu vois, c'est genre, t'as passé les insécurités et t'es dans la vague de l'amour. T'es sur ton surf et c'est que du love. Tu sais, c'est des petites surprises, des petits trucs, des machins, des attentions dans tous les sens, des machins. Tu sais, il n'y a même pas de questions qui se posent. Tu sais, on part en week-end? Mais bien sûr. Je pars avec ma meuf. Quelle question, genre, eh, tiens, il y a telle activité, il y a une avant-première. Ok, je serai là avec ma meuf. Tu sais, genre, t'envisages même pas d'inviter un pote ou non, c'est ma meuf. C'est genre vraiment, c'est le moment où ça consolide le ouf. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. Je suis hyper, etc. Donc, ça, voilà, ça plaint le truc.
Tu fais partie de ces couples très fusionnels où tu fais plus que parler de en nous, c'est ça?
En tout cas, c'est dans cette période-là, ouais.
Ouais.
Et après, tu vois, c'est quand t'as bien consolidé, quand t'as bien construit la maison, etc., qu'elle est sur, voilà. Là, tu te dis, ok, bon. Alors, cette avant-première, c'est le film préféré d'un de mes potes, donc voilà, je vais y aller avec lui. Tout va bien, parfait, génial. Bah ouais, mais moi aussi, je pense ça de toi. Mais bien sûr. Mais oui, mais toi aussi, t'es incroyable. Mais bien sûr.
Et serein, tu vois, pas en train de te dire, oh bordel.
Voilà, exactement.
Ça va partir en couille.
Non, mais ouais. Mais j'ai une partie de moi qui aimerait bien surintellectualiser un peu moins, hein. Je vais pas te mentir.
Mais ça t'a pas aidé la méditation à surintellectualiser moins et à plus être dans ton corps? C'est vraiment très long.
Ouais, je suis en train de réfléchir.
Ah ouais.
Ça m'a aidé pour plein de trucs, mais pour ça, je crois pas.
Ah ouais, parce que moi, c'est vraiment, je pense, le bénéfice principal que j'ai eu.
Ah ouais.
De revenir à l'écoute des émotions et des sensations corporelles, quoi.
Ah bah oui, je le fais, mais c'est ça l'enfer.
Mais donc...
C'est que du coup...
T'écoutes plutôt ton ventre que ta tête à ce moment-là.
Ouais, mais okay. C'est mon ventre qui a peur.
Oui.
Et donc ma tête comprend pourquoi mon ventre a peur, mais c'est ça... L'origine... En fait, là, il se passe des trucs qu'ici, on lit,
ouais,
et qu'ici, on comprend, et que du coup, on a envie de dire là.
Ah oui, ok. Mais
tu vois,
plutôt que de juste écouter la peur et la prendre.
C'est-à-dire que j'ai la peur et je suis là, genre, tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu vois, j'arrive pas encore à faire. Ça va bien se passer. Oui, je sais que t'es là, tu vas partir. T'inquiète. Ouais. Tu vois, okay. En fait, je me dis, je pourrais faire ça, mais et c'est égoïste ce que je veux dire. Hein. Je pourrais le faire. Mais ça me fait gagner tellement de temps de faire « Eh, il y a ça là, viens m'aider s'il te plaît. »
Je comprends tellement.
Tu vois, c'est beaucoup plus simple.
Ok.
Parce que la personne, elle peut te dire une phrase qui va faire que « Ok, plus de peur, cool. » Voilà, c'était juste cette phrase que je voulais. Alors le problème, c'est quand elle te dit pas cette phrase, tu vois. Et que là, c'est genre « Ouais, mais tu te prends la tête de ouf, etc. machin. » T'es là genre « Ouais, un peu. » Et là, ça devient une peur encore plus grande. Et t'es là genre « Mais cette fois, tu dois la gérer tout seul. » T'es là genre « Ouais, non, t'inquiète. Non, ça me va très bien là, tout ce qui se passe. Ouais, »
Oui,
ouais.
Je t'imagine tellement. Audrey qui dit « Chris Paul qui dit « Overthinking. Stop overthinking. » Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire quand je sais pas quelle a été ton éducation, mais moi mon éducation, ça a été donc thérapie à 40 ans, 40 ans de déconstruction de arrête de penser avec ta tête, quoi, tu vois, c'est bon, 2 secondes, mais ça prend du temps, hein, c'est très très long, pas encore terminé en plus.
Ouais, et puis en vrai, je pense que c'est pas possible, hein, de changer totalement, tu vois, c'est juste en fait, moi je suis plus dans une phase depuis quelques mois, années, et pareil, en voyant des gens qui savent, tu vois, je suis plus dans une phase de, au lieu de changer ce que je suis, accepter ce que je suis et faire avec, dans la mesure où ça ne nuit pas trop à moi et aux autres, tu vois. Mais je comprends que je serai toujours un overthinker, toujours, tu vois. Ça sert à rien de m'imaginer un jour ne plus du tout overthink.
Bien sûr.
C'est pas ma personnalité, c'est pas ce que je suis, tu vois. Maintenant, c'est est-ce que ce overthinkage, ce overthinking me rend malheureux? Si oui, il faut que je règle pourquoi ça me rend malheureux et le réduire, mais j'en suis pas à ce stade, ça me rend pas malheureux, c'est juste, ça crée des petits épisodes comme ça un peu gênants, mais ça va, tu vois, genre c'est tolérable et je suis ok avec ça, tu vois. Et l'autre côté de la facette, c'est que ce overthinking fait que j'arrive à faire mon taf et fait que je pense que c'est ce qui fait qu'aussi des gens me suivent, etc. C'est parce que je me prends la tête sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, je me prends la tête à la place des gens, quoi. Tu vois, genre, hey, je vais vous parler de ce truc-là, je me suis pris la tête dessus, vous n'avez pas à le faire, vous inquiétez pas.
Mais c'est ce que je te racontais juste avant le début du live, c'est que j'ai adoré ta vidéo sur ton emménagement parce que je trouvais que tu arrivais à faire un pas de côté, même si tu parlais de ta vie perso. Et toi-même, tu étais un peu étonné de publier cette vidéo-là sur ta chaîne en disant, je ne sais pas trop où va ma chaîne, mais en tout cas, elle y va. Et je trouvais qu'au contraire, il y avait un côté... Il y avait un côté où tu arrivais à relier un aspect de ta vie perso et de venir mettre un pas de côté ou de dézoomer un peu pour amener ton avis qui est hyper pertinent en plus, je trouve.
Voilà, bah, mec, ça me fait grandement plaisir. Écoute, ça me touche.
C'était ça que je souhaitais dire. Et en fait, si tu disais tout à l'heure, que l'important c'est de commencer à t'accepter comme t'es. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de stoïcisme par hasard? Parce que c'est exactement ça, le concept du stoïcisme.
Ouais. Il y a plus que accepter ce que t'es, il y a aussi accepter ce qui t'arrive.
Accepter les choses telles qu'elles sont.
Voilà. Exactement. Deuxième reco.
Oh Épictète.
Le manuel d'Épictète. Il est beaucoup plus court que ce que vous voyez là, le bouquin. En vrai, ça commence ici. Et ça s'arrête. Attends, je vais enlever les notes. C'est hyper court, donc vraiment, je le recommande. Mettez-le dans les toilettes. C'est ça.
Ah ouais?
Ouais.
Et c'est quoi exactement alors? C'est un manuel d'école? Comment ça se passe?
Il me semble que c'est des passages de ses cours, en fait, qui ont été mis ensemble et tout. Il était à la base, il était esclave, le type. Donc, gros respect. Peut-être que Chris Paul a peut-être des anecdotes sur Épictète, parce que Chris Paul est grec, en fait.
Ah, ok.
Donc, il a toujours, dès que je parle d'un philosophe grec et tout, il est là, il me sort des trucs, quoi.
C'est bizarre quand même comme truc, tu vois, parce que t'es grec, t'as forcément
Bah ouais, mais lui vraiment, c'est le cas, quoi. Et en plus, il parle grec et tout, donc il est chaud, quoi. Mais tu vois, donc le manuel, vous trouverez des phrases comme celle-ci. J'adore... surligner ou souligner des trucs dans les bouquins, j'ai l'impression de me rendre une faveur à mon moi du futur qui est incroyable.
Pourquoi?
Parce que gain de temps incroyable. Tu ouvres le livre direct, tu vois les phrases qui t'ont marqué ou les trucs importants. Sinon, t'es obligé de relire en fait. C'est infernal. Donc maintenant, je ne lis plus tant que j'ai pas un surligneur avec moi.
Tu prends pas des notes à côté?
Je préfère surligner.
Ok.
Tu sais, il y a toujours un truc explicatif et une phrase qui conclut un peu le truc. Je surligne la phrase et tu vois, j'ai toujours... j'ai le surligneur, toujours le surligneur. Toujours. Et tu vois, tu as ce genre de phrase, par exemple. Ne dis jamais de rien, ; je l'ai perdu. Mais je l'ai rendu. Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. Mais celui qui me l'a pris est méchant. Quelle importance pour toi? Par qui te l'a réclamé celui qui te l'avait donné? Tant qu'il te le permet, prends-en soin comme d'un domaine étranger. Comme ceux qui y passent font d'une hôtellerie. Puissance.
Bon, déjà, c'est écrit à une époque où les enfants et les femmes avaient tendance à mourir beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il faut qu'on précise déjà parce que vraiment,
c'est clair.
Le truc.
Non, mais c'est hyper fort. Et attends. Tiens, là, j'écris base du stoïcisme. Voilà, j'écris base du stoïcisme. Donc, pour resituer, je vais lire et je vais me faire confiance en espérant que ce soit vraiment la base du stoïcisme. Quand tu vois quelqu'un pleurer, endeuillé ou parce que son fils est parti en voyage, ou parce qu'il a perdu ses biens, applique-toi à ce que la représentation ne te captive pas, qu'il traverse des mots qui lui viennent du dehors. J'explique après. Qu'il ne te captive pas, qu'il traverse des mots qui lui viennent du dehors, mais que la réponse immédiate soit à portée de ta main. De point, ce n'est pas l'événement qui oppresse cet homme, entre parenthèses, un autre, en effet, n'en est pas oppressé, mais l'évaluation qu'il prononce sur lui. Pourtant, dans les limites de la parole, ne crains pas de lui porter de la sympathie, et si le cas se présente, de gémir aussi avec lui. Applique-toi pourtant à ne pas gémir aussi au-dedans. Ça, c'est la base du stoïcisme. C'est-à-dire que il y a des événements qui arrivent, tout le temps, tu vois. Et il y a toi. Et entre les deux, il y a ton jugement. Tu vois. Quand tu perds ta maison ou quelqu'un de proche meurt, etc., l'événement en soi n'est pas triste. Tu vois. C'est une maison brûle. Tu vois. C'est en soi, c'est pas triste en soi. Tu vois.
Bien sûr.
Quelqu'un meurt. Tu vois, c'est pas triste en soi. Exactement. Mais c'est ton jugement et donc tout ce que tu portes comme amour ou affection ou attachement à la maison, à la personne, etc., qui font que pour toi, cet événement est triste. Mais cet événement n'est pas triste en soi. Et donc, le but du stoïcien, c'est de taffer son jugement pour toujours prendre un recul sur les événements qui arrivent et ne se laisser le moins possible perturber par les événements extérieurs. Tu vois? Et il dit, ça t'empêche pas d'avoir de la sympathie, ça t'empêche pas, voilà, de soutenir les autres, ou voilà. Mais garde cette distance et tu vois, taf sur ton jugement, quoi. Tu vois? Et ça, les bouddhistes, ils disent la même chose, d'une certaine manière, tu vois. Ce qu'on a vu juste avant sur, je l'ai rendu. Regarde. La page vient de se détacher.
Ça en dit long.
Je l'ai rendu, cette page. je suis dégoûté. Non, je rigole pas du tout. Non, j'aurais trop aimé faire le mec. Putain, je kiffe trop ce livre, là. Mec, pas du tout stoïcien. Le truc de je l'ai rendu, il y a les bouddhistes qui utilisent le terme aniche, qui veut dire l'impermanence. C'est l'un des trois principes de l'existence chez les bouddhistes, qui est que tout est impermanent, tout le temps, tu vois. Et en fait, c'est exactement ce principe de « je l'ai rendu », parce que si tu considères que ta femme, ton enfant, ta maison, ce que tu veux, est impermanent, bah tu vas pas t'attacher de la même façon. Tu vois, si je te prête une montre, une montre de ouf que tu kiffes et tout, et genre, si je te dis « je te la prête », je la récupère dans deux jours. Bah, tu vas pas t'attacher de la même manière que si je te la donne, tu vois.
Bien sûr.
Et ben, c'est exactement le même principe chez les stoïciens, chez les bouddhistes, c'est de tout considérer comme un prêt, tout considérer comme impermanent, pour ne pas s'attacher outre mesure et pour du coup moins se laisser envahir par les émotions le jour où ça tourne mal, quoi.
Alors il y a Matt dans le chat qui dit ouais, mais le stoïcien est protégé de tout toute sa dans sa vie, c'est une force énorme. Et il y a Chris Paul qui lui dit alors il essaie, mais c'est pas forcément le cas parce que c'est un travail. C'est
ouais, exactement, c'est un travail. Ce travail, ça porte un nom, ça s'appelle l'ascèse. ASCESE. On est sur les petits termes techniques, mais ouais, c'est un, et donc chez les bouddhistes, c'est la méditation, ce travail là, tu vois. Mais et puis faut aussi tu vois, genre être réaliste, c'est-à-dire que le stoïcien, même un vrai stoïcien et tout, sa maison brûle, il va chialer sa race, tu vois.
Bien
il
sûr.
Tombe à genoux, il chiale sa race. Mais sauf que, au lieu d'être triste pendant des mois et des mois, il va être triste. Plus il est fort et moins il est triste longtemps, quoi. Tu vois, genre, tu vois, s'il est exceptionnel, il va être triste 5 minutes. Mais sinon, ça va être des jours, mais peut-être des semaines. Mais voilà, tu vois, genre, il vit sa tristesse, il l'a vécu. Ok, on passe à autre chose, quoi. Tu vois, c'est quasi impossible en vrai d'avoir absolument zéro attachement. Sinon, c'est, bah, t'es le Bouddha, quoi. T'as atteint la libération, en fait. T'es libéré de tout attachement et tout désir et toute aversion. Voilà.
Je trouve que c'est dur dans notre société aujourd'hui de, vis-à-vis de l'extérieur, en tout cas, d'avoir cette approche stoïcienne, si tu veux. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais souvent, moi, quand j'essaie d'expliquer ça aux gens autour de moi, il me trouve insensible, tu vois.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire, mec. C'est le mot que j'avais en tête. Ouais, c'est le reproche qu'on fait tout de suite au stoïcisme, ou même, et même d'une certaine manière, au moine bouddhiste qui est impassible, etc., machin. Et même d'ailleurs, rester stoïque, ça a une connotation un peu négative.
Bien sûr, ouais.
Tu vois, il est resté stoïque. Je trouve ça, c'est triste. J'ai du mal à, à comprendre totalement pourquoi. J'ai l'impression que c'est peut-être une incompréhension de ce que c'est, tu vois, le stoïcisme. Ça veut pas dire que tu ressens rien, tu vois. Et parce que j'ai l'impression que pour les gens, la vie, genre, t'es la vie, elle vaut la peine d'être vécue, tu vois. C'est la quote, tu vois. Genre, faut morfler, faut à la fois avoir des trucs hauts, des trucs bas, et c'est ça la vie, tu vois. Et donc, tu vois, les stoïciens, pour eux, j'ai l'impression, pour certaines personnes qui ont ces arguments-là, ils vont te dire, mais le stoïcien, il a pas non plus de joie extrême, tu vois. Ce qui fait sens, effectivement, parce que vu que il s'attache pas non plus aux choses, il va pas être hyper attaché à un truc, il va pas recevoir toutes les joies que nous on peut avoir suite à l'attachement, tu vois. Mais, pour moi, ce qu'il a est au-delà de ça. C'est au-delà de la joie, c'est la sérénité, tu vois. C'est-à-dire qu'il est, pour l'avoir, et c'est très difficile à dire parce que c'est là où les bouddhistes, ça c'est un des apports de Bouddha où il dit voilà, il y a la compréhension intellectuelle des choses, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est quand tu lis un livre, c'est voilà, et il y a l'expérientiel, c'est quand tu le vis, tu vois. Et donc je peux vous raconter un truc que j'ai vécu, mais jamais je pourrais vous l'expliquer de sorte à ce que vous le viviez aussi. Mais tu vois, quand j'ai fait la première fois que j'ai fait 10 jours en noble silence, méditation, tout ça,
Vipassana.
Vipassana. Le 8e jour, j'ai vraiment eu la sensation de toucher du doigt ce truc de sérénité, où vraiment, mec, je te jure, dans la sensation, en tout cas, tu pouvais venir me donner un coup de poignard. J'étais là, genre, je crois que c'était le seul moment de ma vie où si je crevais, c'était pas grave. Mais sincèrement, tu vois, genre, profondément. Et tu vois, je me souviens, il y a une araignée, c'est un truc que j'avais raconté aux Frames, il y a 3 ans, je crois. Il y a une araignée qui, 4 ans, qui descend, parce qu'on était à Katmandou, et donc il y a plein d'araignées cheloues et tout, et genre, beaucoup trop de couleurs sur cette araignée pour que tu sois à l'aise, tu vois. Et tu, en temps normal, j'aurais fait un truc comme as, ou j'aurais flippé, j'aurais demandé à quelqu'un de l'enlever. Et là, mec, vraiment, j'étais genre... Tu vois, j'étais genre serein, tu vois. Et la sensation, en fait, que j'ai eue cette journée-là m'a fait... J'ai compris que, ok, en fait, quand t'arrives à ce stade, c'est bien au-delà de n'importe quelle joie. C'est un autre niveau, en fait. Voilà, c'est là les limites du truc. C'est que vu que c'est expérientiel, je peux pas l'expliquer, en fait, tu vois.
Le vrai truc après, c'est que ça t'est arrivé et après c'est reparti, tu vois.
Ouais.
Là où les gens qui ont l'habitude de le faire et de le pratiquer, ils restent sur un état qui est plus prolongé en tout cas.
Voilà, exactement, exactement. Ils acceptent aussi qu'il y a une forme d'impermanence, tu vois, c'est un état que tu peux perdre et retrouver et tout. mais oui, c'est un truc qui retrouve. Moi, j'avoue, je l'ai jamais retrouvé avec une telle intensité, tu vois. J'espère que je le retrouverai une fois. Je touche du bois.
Il y a la psy qui parle sur le chat. Salut la psy qui parle, qui dit.
Yo la psy qui parle.
C'est une vision hyper rationnelle de l'être humain, non? J'ai pas tant la sensation que ça, que c'est rationnel. Je sais pas comment tu l'aperçois, parce que pour moi c'est juste une fois que t'as compris qu'en fait tout n'était que jugement et interprétation de ta part, de ton cerveau, de l'être humain que t'es. Après, c'est à toi de mettre. Tu te rends compte aussi que tu peux monter les curseurs ou baisser les curseurs un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas aussi simple à dire qu'à faire.
Ouais, ouais.
Pas aussi simple à faire qu'à dire, pardon. Mais
ce truc de rationnel, ça m'embête parce que je saurais pas dire si c'est rationnel ou pas, mais je suis persuadé que c'est vrai, entre guillemets. Enfin, tu vois, genre que c'est, on fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, un des trucs qu'on voyait donc avec les bouddhistes, etc., donc dans le centre de méditation, c'est que donc en fait, chez les stoïciens, tout passe par le jugement. Chez les bouddhistes, tout passe par les sensations. C'est-à-dire qu'en gros, un bouddhiste, il va te dire, la glace, tu la kiffes. C'est pas la glace que tu kiffes, c'est la sensation qu'elle va te procurer. Parce que t'as déjà eu cette sensation, tu sais que tu la kiffes, tu t'as développé un attachement pour cette sensation, donc c'est la sensation de la glace que tu kiffes, c'est pas la glace. Et putain, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire là, j'avais prévu d'en parler, tu sais, j'aimerais bien faire de la scène et tout.
Mais c'est trop bien, fais ça sur scène.
Et, Et tout ça, j'ai envie d'en parler sur scène. Ouais. Et tout. Bon, on verra ça plus tard. Mais et en fait, qu'est-ce que c'est ça, le fait de avoir voir une glace et du coup la kiffer, mais alors qu'en fait t'es attaché à la sensation et pas à la glace. Bah c'est du conditionnement en fait. Tu vois, c'est exactement donc ça a parlé à la psy qui parle, mais à mon sens, tu vois, c'est vraiment ce truc de conditionnement, de en fait on t'a donné une glace, t'as eu cette sensation, etc. Et en fait t'as attaché la sensation à la glace et voilà. Et donc le but de la des bouddhistes, etc., ce qu'ils nous disaient, c'était, enfin c'est pas ce qu'ils nous disaient, mais c'est ce que moi j'ai compris avec mon bagage culturel occidental, c'est qu'en fait c'est du déconditionnement. Tu te déconditionnes, quoi. Et l'idée, c'est que dès que t'as une sensation, au lieu d'y réagir, tu l'observes. Tu l'observes et t'essaies d'avoir ni un attachement, ni de l'aversion pour cette sensation. Et donc les stoïciens, c'est un peu pareil, mais avec le jugement, quoi.
Alors, si je peux amener un autre truc, c'est qu'au tout début de ma thérapie, ma psy m'a donné un compteur. Tu sais, clic, 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 comme les gens qui sont... Les gens qui sont dans le train, tu vois, et qui comptent le nombre de gens, ouais, parfois qui passent. Et elle m'a dit, voilà, je pense que t'es coupé de tes émotions. À chaque fois que tu vas ressentir un moment joyeux dans ta vie, tu vas cliquer, tu vois. Je dis, ok, c'est bizarre, mais ok. Et en fait, j'avais tout le temps mon compteur sur moi. Et en fait, je cliquais systématiquement. Et je me suis rendu compte que... En fait, au fur et à mesure, je cliquais, tu vois. Je vais la voir une semaine ou 15 jours plus tard, je sais plus. Alors, elle me dit, alors, t'en es où dans ton compteur à kiff, quoi, ou je sais plus comment elle avait appelé ça. Et je fais, j'ai pas mal avancé, je suis trop content. J'arrive à comprendre, en fait, que, là, je suis en train de passer un bon moment, c'est trop bien, je clique, tu vois.
Ouais.
Et donc, je lui pose sur le bureau, et en fait, elle me le reprend. Et vraiment, j'ai eu pendant 3 secondes un truc de, mais elle m'a enlevé mon compteur à kiff, je pense que je vais plus pouvoir jamais kiffer. Et en fait, je suis reparti, je n'en ai pas parlé, tu vois, parce que pour moi, elle l'avait vraiment fait exprès de le reprendre, tu vois, en disant, ok, donc c'est comme si je t'avais filé une béquille, mais en fait, maintenant, la béquille, je vais la reprendre, ouais, tu sais marcher tout seul, mec. Et en fait, j'avais compris que mon cerveau, il avait réussi à cliquer tout seul, à kiffer le moment ma tête, tout seul, sans avoir besoin de ce compteur.
Et super.
Je pense que c'était génial comme exercice, parce que si jamais vous avez besoin de vous remettre dans une forme de kiffer les bons moments, je pense que c'est un très bon exercice qui coûte pas cher, ça coûte un compteur. Ou alors vous faites autre chose, hein, vous pouvez mettre un petit trait dans un carnet, enfin vous faites comme vous voulez, ouais, mais simplement il faut juste avoir un truc qui vous permet de déclencher le truc, et de vous rendre compte du truc et de le déclencher. Et en fait, je pense que c'est un peu pareil avec le stoïcisme, c'est-à-dire que c'est à un moment donné où t'as aussi une forme de reconditionnement à avoir par rapport à ça, et à te dire, ok, les choses ne sont que des interprétations. Et en fait, en gros, moi je vivais les mêmes moments avant, de bonheur, je pense, mais simplement je les comptais pas, je les cliquais pas.
Ouais, non, mais je vois
ça. Ça n'était que mon interprétation.
D'où les exercices de gratitude. Pour entraîner son cerveau.
Exactement.
Et c'est un muscle, quoi, la gratitude et tout. Et ça me fait penser à. C'est Schopenhauer, il en parle de ça. Il dit que, en gros, ce qui est. Il parle du fait que la souffrance et la douleur, c'est immédiat, alors que leurs pendants sont médias. Il y a une médiateté. C'est-à-dire que je dois faire l'effort de penser alors que la souffrance vient à moi, tu vois, tout de suite. Enfin bon, voilà, c'est des petites anecdotes, quoi. Petite anecdote de Schopenhauer, voilà.
J'adore quand tu cites... il y a Chopi, là.
Chopi.
Chopi disait...
Arthur. Tutur.
Voilà, les gens, effectivement, c'est puissant. Merci la psy qui parle, t'as raison. c'est extrêmement puissant.
Le manuel.
Ouais, le manuel d'Épictète, de ouf.
Voilà, très court, et il permet de capter un peu l'essence du truc. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs ?
Non, mais oui, tu reviendras. Non,
c'est quoi la question que t'avais posée ?
Non, est-ce que t'avais d'autres choses à ajouter sur Épictète ?
Ah, sur Épictète. Non, en vrai, c'est juste que, moi, ce qui me plaît là-dedans aussi, c'est que, en vrai, quand tu comprends le stoïcisme et quand tu comprends le bouddhisme, et en fait, tu te rends compte que c'est la même chose, quoi. Tu vois, et quand tu te vois que, des gens aussi éloignés et depuis autant de temps te donnent, te disent que voilà, c'est la voie, elle est là. Si tu veux être heureux ou si tu veux mieux supporter les douleurs du monde, bah ça vaut le coup de s'y intéresser, je trouve.
C'est ouf, hein.
Tu vois.
J'ai relu dernièrement des passages de Marc Aurèle du journal de Marc Aurèle. Donc Pensez pour moi-même. Donc à l'époque, Marc Aurèle, c'est l'empereur de Rome. En gros, c'est le maître du monde, quoi, clairement. Et en fait, tu relis le truc et tu te dis, mais c'est tellement moderne. C'est saut 2020 son truc, alors qu'il l'a écrit il y a fort longtemps.
Ouais. Et très très rattaché au stoïcien.
Oui.
Marc Aurèle.
C'est net, si, etc.
Quoi. Ouais, exactement. Ouais.
T'allais dire, je t'ai coupé.
Non, j'allais dire, même si je lisais que il y en a beaucoup qui le considèrent comme stoïcien, mais en fait, on peut pas vraiment le considérer comme stoïcien parce qu'il s'est jamais revendiqué comme tel, tu vois. Ah. Même s'il utilisait des préceptes stoïciens, mais en vrai.
Il y a des trucs dans les clubs, c'est ça, des stoïciens.
Ouais, exactement.
Il y a des clashs au sein des.
Dans les clubs des stoïciens, on sait pas trop pour Marc Aurèle, on n'est pas sûr. Il n'est pas totalement validé. Pas...
Il faut à tout prix se revendiquer pour en être, tu vois. C'est... Bon, merci beaucoup, Cyrus.
Merci à toi, mec, pour l'invite. C'était
un super moment.
Ouais, grave.
Je crois qu'on est d'accord.
Ouais, c'était charmé.
Merci à vous dans le chat. Un grand merci à vous qui avez commenté, qui avez discuté. Bienvenue à tous ceux et toutes celles. Je ne fais pas encore, tu sais, ce truc de salut. J'ai pas encore les alertes sur les nouveaux follow, etc. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les gens qui ont follow la chaîne grâce à Cyrus. Ça me fait un gros plaisir. J'espère que vous y retrouverez.
Gassure, Fab Florent, Gassure.
D'autres contenus cool dans les semaines et les mois à venir. Si vous avez raté le début du live, je vous invite à chercher dans le replay, enfin dans le votre appli de podcast, pardon, un podcast qui s'appelle La Reco de Fab Flo, tout simplement, et vous pourrez retrouver le replay d'ici demain matin. Quoi, je nous mettrai nos bonnes voix tous les deux.
Le mec est clean, quoi. Le mec est calé. Et t'accueilles qui prochainement?
Prochainement, je le dis pas.
Ah ouais?
Non, non.
Je t'es en train de te faire ta propre promo sur ta propre chaîne.
Mais en fait, tu sais, j'ai toujours ce truc où j'aimerais bien avoir. Il y a plein de gens que j'ai déjà invités, si tu veux, mais il faut qu'ils me répondent. Donc, je veux pas lancer des noms.
Sans et les prendre de court.
Sans qu'ils m'aient dit, tu vois. Mais normalement, donc on se retrouve vendredi. Vendredi, je serai avec Florence, qui est, enfin Victoire, pardon, qui est la fondatrice d'un site qui s'appelle The Good Goods, qui est un site en rapport avec notamment la mode éthique. Et on va parler de. On va
parler. J'ai eu un frisson en même temps. Ouais.
On va parler de tout ça.
Trop bien. Ok.
Mais en tout cas, un grand merci à toi d'avoir été avec moi. Tu reviens quand tu veux, mon bon Cyrus.
Ça marche. Merci pour l'invite.
Je serais trop content de parler avec toi, quoi, comme d'hab, quoi. Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Grave. Merci, ça me touche.
Je te fais des bisous. Je vous fais des bisous aussi dans le chat. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Bisous.
Ciao.
Salut.